Bon réveil à l'écoute de RFI, les 5h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Goma et Kigali. Et comme promis, voilà Nemo en piste. Bonjour Nemo.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
À la une, Goma, au rythme des combats ce lundi.
Après l'entrée dans certains quartiers de la capitale du Nord Kivu de combattants du groupe M23 soutenu par le Rwanda, la situation reste très floue sur place, tout comme de l'autre côté de la frontière à Gisenyi, où des échanges de tirs ont été entendus toute la journée. Nous y sommes dès le début de cette édition. À Bukavu également, sur la rive opposée du lac Kivu, où, comme dans d'autres villes de RDC, des manifestations ont éclaté pour s'opposer au M23 et pour encourager les FARDC. On fait un point complet sur la journée d'hier dans l'est du pays. À suivre également les derniers développements de la guerre au Soudan et cette nouvelle phase qui s'ouvre après les récentes avancées de l'armée. Et puis on connaît la composition des groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Maroc en fin d'année. Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Sénégal, Égypte, Algérie ou encore Maroc. On vous présente les adversaires des principaux favoris. Ce sera dans le journal des sports. Nouvelle journée au rythme des combats hier à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où l'armée congolaise et ses alliés continuent d'échanger des tirs avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Des membres du M23 sont entrés hier dans la grande ville de l'est de la RDC, mais il est toujours difficile pour l'heure de savoir quelles parties de la ville appartiennent à quel camp. Selon les données transmises par plusieurs hôpitaux, la journée de lundi aurait fait au moins 17 morts et plus de 350 blessés, des victimes et une situation confuse. C'est également le cas de l'autre côté de la frontière à Gisenyi, dans le district de Rubavu, où se trouve toujours notre envoyé spécial, Lucie Mouillot.
Pendant toute la journée, les échanges de tirs et de mortiers se sont fait entendre de part et d'autre de la frontière entre Goma et Gisenyi. Le dernier bilan partagé par le porte-parole de l'armée, le brigadier général Ronald Ruivanga, fait état d'au moins 5 morts civils et 35 blessés par les bombes et balles perdues tombées dans la ville rwandaise. Une situation incertaine qui a poussé de nombreux commerces et la majorité des écoles à garder portes closes ce lundi. Les deux postes frontières, la petite et grande barrière, sont restés fermés également, sauf pour l'évacuation d'environ 1000 personnes, agents civils des Nations Unies et leurs familles à Goma. La sécurité autour de Gisenyi et du district de Rubavu s'est renforcée dans la journée. De nombreux contrôles policiers des voitures sur l'axe routier menant à Kigali ont été mis en place. Dimanche, le ministère des Affaires étrangères affirmait dans un communiqué que les combats à proximité de la frontière rwandaise continuaient de représenter, je cite, « une menace sérieuse pour la sécurité du pays et nécessitait que le Rwanda maintienne une position défensive soutenue ». Lucie Mouillot, Gisenyi, RFI.
Et après avoir pris la température de l'autre côté de la frontière, on la prend de l'autre côté du lac, sur la rive opposée, au sud, la ville de Bukavu, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur colère. Parmi elles, des membres de la société civile ou des agents de l'administration publique de la province du Sud Kivu, qui ont répondu à l'appel du gouverneur pour, d'une part, s'indigner de la situation en cours, d'autre part, encourager les FARDC à récupérer Goma ainsi que toutes les entités déjà occupées par le groupe armé M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. William Bassimike était sur place.
Petite banderole en main, les manifestants de tous âges scandaient des chansons hostiles à l'occupation de l'Est de la RDC par les Rwandais. Pierre Mambo est venu faire entendre sa voix.
Trop c'est trop, ça fait longtemps que les Rwandais nous agressent. À tout moment la guerre, et donc on est fatigué avec ça. Et il faut dire à Kagame d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est au Congo. Demain, ça peut tourner mal chez lui.
Sur des calicots, on pouvait lire des messages. Nous voulons la paix, non à la guerre, ou encore M23 dégage. Maître Néné Bintou est la présidente de la société civile du Sud Kivu. C'est elle qui lit les documents des revendications qui s'adressent directement à la communauté internationale.
La ville de Bukavu court un grand danger d'être attaquée prochainement si rien n'est fait. La société civile du Sud Kivu recommande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, le Rwanda.
Les activités socio-économiques et politiques sont restées paralysées. Marchés, boutiques, magasins et écoles sont restés fermés. Différents bureaux administratifs n'ont pas fonctionné aussi normalement. La sécurité a été renforcée sur les points chauds de la ville. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a reçu les documents et a promis de les transmettre à la haute hiérarchie. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Et pour tenter de trouver une solution diplomatique plutôt que militaire, un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est doit se tenir demain, mercredi, annonce faite hier par le président kényan William Ruto. Nairobi qui a assuré que et Félix Tshisekedi pour la RDC et Paul Kagame pour le Rwanda y prendraient part. Leurs participations sont toutefois en attente de confirmation. Sans plus de précision, le chef de l'État kényan demande des discussions avec le groupe armé M23 et toutes les parties, je le cite. Autre réunion prévue sur le continent, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui organise une session d'urgence à la mi-journée ce mardi. De son côté, la communauté internationale reste très prudente. Réaction tout de même aux États-Unis, où la nouvelle administration Trump et notamment le secrétaire d'État américain Marco Rubio a joint Félix Tshisekedi. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Ce n'est manifestement pas une priorité pour l'administration Trump, mais l'Afrique a fini par apparaître dans la carte du monde vue de Washington. Et c'est la République démocratique du Congo qui a retenu l'attention du nouveau chef de la diplomatie américaine. Marco Rubio a appelé le président de RDC, Félix Tshisekedi, pour parler de la relation bilatérale, mais surtout pour évoquer la situation actuelle dans l'est du pays. Marco Rubio condamne l'attaque de Goma par le M23, soutenu par le Rwanda. Il affirme le respect des États-Unis pour la souveraineté de la RDC. Le secrétaire d'État et le président congolais sont convenus de l'importance de faire progresser le processus de Luanda et les efforts du président angolais João Lourenço pour relancer dès que possible les pourparlers entre la RDC et le Rwanda. La situation en RDC était aussi mentionnée dans un autre coup de téléphone, cette fois avec le président kényan William Ruto. Le secrétaire d'État a souligné le rôle du Kenya pour la stabilité régionale, en RDC donc, mais aussi en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan. Jusqu'ici, le seul pays africain mentionné par la nouvelle administration, c'était l'Égypte, le seul du continent à échapper à l'arrêt de toute aide internationale américaine en dehors de l'aide humanitaire. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, on continue d'en parler toute la matinée sur Radio France Internationale. Autre conflit qui se poursuit sur le continent, un peu plus au nord, au Soudan. Là-bas aussi, la situation évolue fortement ces derniers jours. L'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan a pu regagner son quartier général à Khartoum, la capitale, position emblématique qui était quasiment depuis le début de la guerre en avril 2023 aux mains des paramilitaires du général Emeti. Un revirement soudain donc qui fait entrer la guerre au Soudan dans une nouvelle phase décisive. Les détails d'Ouda Ibrahim.
L'armée soudanaise réalise depuis septembre dernier en effet des avancées rapides dans plusieurs régions du pays. En lançant en octobre 2024 une première offensive, l'armée a pu récupérer la montagne Moya, un lieu stratégique qui contrôle les routes vers trois états au centre du pays, le Nil Bleu, Sennar et Al Jazeera, pour ensuite avancer vers Wad Madani, la capitale d'Al Jazeera, d'où les FSR se sont retirés sans combat le 11 janvier. Toutes ces avancées ont aidé l'armée à couper les routes de ravitaillement des FSR à Khartoum et à reprendre Bahri au nord de la ville. Vendredi dernier, c'était un autre lieu stratégique qui a été repris, la raffinerie Gili, la plus grande du pays, située également au nord de la ville. Cette avancée de l'armée laisse cependant sceptique sur l'approche de la fin de la guerre. Selon un ancien général à la retraite, cette guerre ne prendra fin qu'à la table de négociation. L'armée espère, en avançant sur le terrain, améliorer sa position au probable prochain pourparlers de paix de Jeddah.
Ouda Ibrahim, le Soudan encore et cette déclaration du procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan qui assure qu'une nouvelle génération de Soudanais subit au Darfour le même enfer que lors de la guerre civile du début des années 2000. Il est clair pour mon bureau qu'au moment où nous parlons, des crimes internationaux sont sans aucun doute en train d'être commis, a-t-il déclaré. Hier soir également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque de vendredi dernier sur l'un des derniers hôpitaux fonctionnels d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Une attaque qui aurait fait 70 morts. Dans le pays voisin, au Soudan du Sud, le couvre-feu nocturne imposé il y a une quinzaine de jours a finalement été levé. La mesure avait été prise justement après des rassemblements anti-soudanais qui avaient éclaté suite à des informations selon lesquelles des combattants vêtus de l'uniforme de l'armée soudanaise avaient tué une trentaine de Soudanais du Sud en marge de la reprise par les hommes du général al-Burhan de la ville de Wad Madani dans l'état d'Al Jazeera. J'ajoute que la levée du blocage des réseaux sociaux Facebook et TikTok a également été ordonné. Et puis la fin de cette édition aux Comores avec des propos qui ont suscité la polémique. Ceux du président Azali Assoumani lors d'une tournée de remerciements après le premier tour des législatives. Il a, lors d'un discours prononcé jeudi dernier à Moéli, évoqué sa succession provoquant un vif débat. Face aux réactions, la présidence a d'abord publié un communiqué dénonçant une interprétation erronée et intentionnelle par certains détracteurs, avant d'aller jusqu'à organiser une conférence de presse à Moroni pour démentir les allégations selon lesquelles le chef de l'État aurait en tête de transmettre le pouvoir à Nour El Fat Azali, son propre fils, actuel secrétaire général de l'exécutif et fraîchement élu député. Abdelazem Baba est à Moroni pour RFI.
Lors de cette conférence de presse, Mahamoud Salim Hafi, secrétaire général adjoint du gouvernement, a tenu à porter des précisions sur la traduction faite de la déclaration d'Azali à Soumani.
Le chef de l'État a noqué moment n'a jamais dit qu'il allait léguer le pouvoir à son fils. Il a dit à un fils. Et surtout, il avait parlé de trois familles. Famille politique, famille gouvernementale et famille nucléique. Il se basait dans le cadre de la famille politique en disant que en 2029, dans le cadre du parti, un enfant du parti aura les brigués, le suffrage universel du peuple comorien.
Une version qui n'a pas convaincu une partie importante de l'opinion, mais que le parti au pouvoir, la CRC, maintient malgré tout.
Il y a eu une désinformation. Faire dire quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas dit, on est dans une république où il y a la transition qui se fait à chaque 5 ans, il y a élection. D'autant plus qu'en 2029, le tour échoua à l'île d'Anjouan et que Nour El Fatou Azali n'est pas enjoiné. Non seulement il n'est pas enjoiné, mais il n'a pas les 10 ans requis dans la Constitution qu'il a habité en juin.
Présent à cette conférence, Nour El Fatou Azali n'a pas prononcé un mot, et ce malgré une question qui lui était directement adressée. Un temps évoqué en interne par des sources du pouvoir, les rumeurs de plainte contre le journaliste ont été démenties par les conférenciers Abdelhamzem Baba Moroni et RFI.
Et à Moroni, il est 7h42.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en Peace.
À suivre, reportage au Tchad où on vous fait vivre l'une des dernières répétitions d'une pièce